va dire un je vous salue pour que le Seigneur m'aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui donc aborder un sujet qui est lié de façon très profonde au message du cœur de Jésus à Parelmonial, qui est la question de l'amitié avec le Christ. Et ça vraiment, quand le Christ révèle son cœur à Marguerite Marie, vous savez que il demande que l'on fasse, qu'elle fasse d'abord, et puis qu'ensuite ça se répande, qu'on fasse ce qu'on appelle l'heure sainte. Vous savez ce que c'est l'heure sainte? C'est une heure de prière, le jeudi soir, entre 11h et minuit, c'est du moins comme ça qu'il a demandé à Marguerite Marie, on peut le faire autrement. Et c'est une amitié, c'est un lien avec le Christ pour que Marguerite Marie éprouve en fait en solidarité avec le Christ, on va dire ça comme ça pour le moment, les douleurs mortelles que le Christ a éprouvées pendant l'agonie de Gethsémani. Donc il y a un lien organique, en quelque sorte, entre l'agonie de Gethsémani et le message de Paré. Ce qui suppose qu'on réfléchisse à l'agonie de Gethsémani, en fait. Et puis, quand on regarde les œuvres de Sainte Marguerite Marie, quand on les parcourt dans l'ensemble, on est frappé par l'utilisation du vocabulaire d'amitié. Ça m'avait beaucoup marqué. C'est un mot, l'amitié, le mot ami, c'est très présent dans la pensée de Marguerite Marie. C'est un mot qu'elle utilise souvent. Mais vraiment de façon assez inhabituelle, en fait, dans ce genre de littérature. Et le Christ lui-même, quand il parle à Marguerite Marie, utilise le vocabulaire de l'amitié, par exemple. L'exemple le plus connu, c'est quand il parle de Claude la Colombière. Voici mon fidèle serviteur et parfait ami. D'accord? Parfait ami. C'est très frappant que Claude la Colombière, qui a été le plus proche du cœur de Jésus avec Marguerite Marie, qui a le mieux compris et appliqué la spiritualité du cœur de Jésus, soit appelé par Jésus son parfait ami. Et entre parenthèses, ça on le sait pas, mais quand le Christ parle de Louis XIV, ça nous le savons par la lettre de 1695 de Marguerite Marie, il le qualifie aussi d'ami. Ce qui veut dire que Louis XIV n'était pas un saint, mais à ce moment-là, ça tout le monde le sait, mais à ce moment-là, il s'était converti. Et donc, le fait qu'il soit converti, c'était un homme qui cherchait aussi le Seigneur, eh bien, le Christ le qualifie d'ami. Bon. Donc, il faut réfléchir à la question de l'amitié dans le message de Parelmonial et par rapport au Christ. Et vous allez voir, ça va assez loin. Ça va assez loin. Alors, il faut partir, on va faire une espèce de petit parcours très simple. On va partir d'un peu loin, c'est-à-dire que on va réfléchir d'abord à la personne de Jésus. Ah, ça, c'est super. C'est du Calvados. C'est ça. C'est une marque d'amitié. À votre santé. C'est pas mauvais. Bon. Alors, il faut d'abord que nous réfléchissions à la personne du Christ. Qui est Jésus? Sous des formes d'ailleurs très simples. Ensuite, après, nous réfléchirons à Gethsémani. Et nous verrons après quel est notre lien à nous avec Gethsémani. Alors, en arrière-plan, la question, ce sont des questions très simples en réalité. Il n'y a pas du tout de complications dans la réflexion. La première question, c'est qui est Jésus? Jésus est vrai Dieu et il est vrai homme dans la même personne. C'est-à-dire qu'il est totalement Dieu, le Verbe de Dieu, seconde personne de la Trinité, et il est en même temps absolument homme. C'est-à-dire qu'il est homme exactement comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il a un corps, qui est ce corps, il a son corps, il a une âme, il a une sensibilité humaine, il a une intelligence humaine. On peut dire d'ailleurs, et on a dit, que personne n'avait jamais été aussi homme que le Christ. Il a été l'homme par excellence. celui qui a vécu l'humanité dans toutes ses dimensions positives, hein, voyez, de la façon la plus belle, la plus pure et la plus totale. Le modèle de l'humanité, c'est Jésus. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des actes humains de Jésus et des besoins humains de Jésus. Il a été petit enfant, il est né, il a grandi, il a appris une langue, il a appris une culture, il a eu une maman, un papa adoptif, il a appris à chanter en hébreu et en araméen, il a appris les proverbes, les expressions hébraïques et araméennes de son temps, qu'on retrouve dans les évangiles. Il a appris à travailler, il a été menuisier charpentier, il savait travailler de ses mains, donc il a vécu vraiment une vie d'homme, pleinement. Et quand on regarde les évangiles, on s'aperçoit que dans les évangiles, tous ces actes humains de Jésus sont très nombreux. Si un jour vous ne savez pas quoi faire dans votre oraison, dans votre prière, prenez les évangiles, prenez un évangile, n'importe lequel, et vous regardez dedans les actes, tout ce qui est purement humain de Jésus. Alors, purement humain, sachant que c'est toujours la même personne, humano-divine, mais il a plein de réactions très humaines, très proches des nôtres. Par exemple, le Christ est dans l'admiration. Qu'est-ce que c'est l'admiration ? C'est être surpris en bien par quelque chose, hein, ou par quelqu'un. Eh bien, le Christ a été surpris en bien par la foi du centurion romain, vous vous rappelez, qui voulait faire guérir son serviteur. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'est bouleversant. Il a été étonné par la foi de ce païen. Il a été surpris aussi par les réactions de la Syrophénicienne. Vous savez qu'il y avait une petite fille malade. Hein. Les Syrophéniciens, c'est des grands ennemis traditionnels des Juifs. Et quand il lui dit, mais il faut donner à manger aux petits enfants et pas aux petits chiens. Elle dit, oui, mais les petits chiens mangent les miettes de la table de leur maître, vous vous rappelez. Il est dans l'admiration devant cette femme, et à ce moment-là, il guérit en effet sa fille. Bon, il a des moments d'émotion intense. On voit que le Christ est un homme extrêmement vibrant et émotif. Par exemple, il pleure sur Lazare. Vous voyez comme il l'aimait. Vous entendez? Voyez comme il l'aimait. Donc, il aimait son ami. Il pleure sur Jérusalem. C'est très impressionnant. Le fait que Jésus pleure sur Jérusalem. Il a de grands désirs. Combien de fois aurais-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Vous vous rappelez? Pour la Pâque, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Donc, voyez, on sent très bien la vibration humaine de Jésus à travers tout ça. D'accord? Il a aimé les petits enfants. Il les a bénis, les a embrassés, d'accord? Il leur a imposé les mains. Vous vous rappelez? C'est pas du tout habituel dans le monde juif au temps de Jésus. Les enfants sont tout à fait tenus à l'écart et on ne demande pas à un enfant, c'est pas du tout la mentalité qu'on a nous. Il n'y a pas d'adoration ou d'admiration des enfants. Ce qu'on demande à un enfant, c'est de devenir adulte le plus vite possible. Ouais. Faut dire que le rythme de vie n'est pas, enfin, la durée de la vie sont pas du tout comparables au nôtre. Donc, Jésus aime les enfants, embrasse les enfants, accueille les enfants. Il s'est mis en colère. Le Christ s'est mis en colère. Ça a des côtés sympas, d'ailleurs, parce que du coup, on se dit quelquefois, il s'est mis en colère quand il a chassé les marchands du temple. Vous vous rappelez? Ça, c'est la grande colère de l'acte 4, hein. Voyez, à la Pagnole. Il a fait ça très bien. D'accord? Bon. Enfin, pardon de dire ça de toi, Seigneur. Et puis, il est exaspéré par les apôtres à certains moments. Il leur dit, combien de temps devrais-je demeurer parmi vous? Vous vous rappelez? Vous êtes tellement bête que je ne peux plus vous supporter. Non, on sent, à travers tout ça, on sent quelqu'un, non? Vous savez que c'est un des personnages de l'Antiquité qu'au point de vue des réactions personnelles, nous connaissons le mieux, de loin. Parce que les témoignages des apôtres, les témoignages des évangélistes sont très 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 proches. Vous voyez, bon. Alors, on a affaire à un personnage qui a voulu épouser l'espèce humaine. Saint Irénée, qui est l'évêque de Lyon, le premier grand théologien, c'est-à-dire le premier qui a fait une synthèse générale de la foi chrétienne, a eu une phrase extrêmement forte. Il disait, Dieu s'est fait homme, alors Dieu a voulu s'habituer à vivre avec les hommes, pour que les hommes s'habituent à vivre avec Dieu. La phrase est très forte, écoutez ça. Dieu a voulu s'habituer à vivre avec les hommes, s'habituer à vivre avec. C'est-à-dire qu'il est venu dans l'humanité, il a voulu s'habituer à vivre avec nous. S'habituer, c'est-à-dire faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant, entrer dans ce quelque chose, en faire son quotidien. Il a voulu s'habituer à vivre avec les hommes. Il a appris ce que nous apprenons, il a vécu dans le temps, dans l'apprentissage des choses, comme nous-mêmes le faisons. Il a eu les besoins des hommes. Vous voyez, on voit qu'il y a des moments où il est fatigué, par exemple, quand il dort dans la barque, vous savez, dans le lac, la barque est secouée, il dort. Ça prouve, un, qu'il avait un bon sommeil, et deux, qu'il était vraiment fatigué. Vous vous rappelez, non? Mais si, mais c'est du bon sens. Oui. Il a voulu avoir un chez-soi, et quand il n'a pas pu revenir à Nazareth, quand il a été chassé de Nazareth, qu'il n'a pas pu y revenir, il a été touché par ça. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Je ne peux même plus rentrer dans ma propre maison. C'est fort. Donc vous sentez à travers tout ça, cette humanité de Jésus. Bon. Alors, maintenant, quelle est la position de Jésus par rapport à l'amitié? Alors nous avons un passage qui est extrêmement impressionnant dans le Nouveau Testament, où on voit Jésus qui va donner à l'amitié une place tout à fait exceptionnelle. Alors, la meilleure description, la description se trouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15. Et je vais vous lire le passage à partir du verset 9. Voilà ce que dit Jésus. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Alors, impressionnant. Comme, ce qui est très fort, c'est le mot comme. Comme le Père m'a aimé, c'est-à-dire l'amour prodigieux du Père pour le Fils. Incroyable, voyez, le même amour que le Père a pour moi, je l'ai pour vous. Quelquefois on se dit, t'as bien du mérite. Mais enfin, c'est vrai, c'est le Christ qui le dit. Comme le Père m'a aimé, de cet amour complet, total, absolu, je l'ai pour vous. Alors, de quel amour s'agit-il? Demeurez dans mon amour, si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Alors, je ne commente pas longuement, simplement j'attire votre attention sur le fait que le mot répéter ici est le mot demeurer. C'est-à-dire c'est un état stable, ce n'est pas simplement un sentiment qui passe, c'est un état stable. Donc le Christ nous demande d'avoir avec lui un sentiment d'amour stable qui demeure. Ça va? Et ce sentiment d'amour que nous devons avoir pour le Christ, et la réponse, bien entendu, à l'amour que le Christ a pour nous. D'accord? Comme je vous ai aimé, d'accord? Aimez-moi, ça va? Et je vous demande de m'aimer avec un amour stable et solide, demeurez. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Alors ça, c'est très très fort. Vous savez qu'on dit que dans les oraisons du Sacré-Cœur, on vient puiser la joie aux sources vives du salut. Il y a dans les apparitions de Jésus à Marguerite Marie un aspect de joie qui n'est pas toujours souligné, qui est très important. Vous voyez, puiser la joie aux sources vives du salut. Quand le Christ parle aux apôtres, il leur dit, eh bien, je veux que vous soyez comblés de joie. Vous voyez, que vous soyez comblés de joie, de la joie même que je vis dans mon cœur, parce que cette joie vient de ma relation avec le Père, et cette joie qui me transporte, et vous vous rappelez qu'il y a un passage où il tressaille de joie sur l'action de l'Esprit Saint, dans l'Écriture. Donc cette joie qui est en moi, je veux qu'elle soit aussi en vous. Alors, il poursuit maintenant un peu plus loin. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, donc ce sont des phrases très fortes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors maintenant, écoutez ça. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis. Maintenant, je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, je vous appelle mes amis. Alors, cette phrase est très très importante et elle n'est pas très souvent soulignée, ce qui est très curieux. En fait, il y a un changement d'attitude de Jésus vis-à-vis des apôtres. Alors, il faut comprendre le contexte. C'est la dernière scène. Jésus va mourir et il le sait. Il va donner sa vie et il va donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. Et donc il va aller jusqu'au bout de l'amour pour ses amis. Et jusque-là, les apôtres considèrent que Jésus est le Messie. Ça, ils savent qu'il est le Messie. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils savent que c'est un personnage d'une puissance incroyable. Et donc ils se considèrent comme les serviteurs du Messie. D'accord. Bon, faut dire, ayant vu ce qu'ils ont vu, c'est pas anormal. Donc ils se considèrent comme les serviteurs du Messie. Et voilà que Jésus change d'attitude et il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Il y a un changement de vocabulaire. Le Christ, c'est-à-dire que le Christ change sa position à ce moment-là, qui est le moment le plus solennel de sa vie. Ouais. Le moment où il célèbre la scène, il va ordonner prêtre les apôtres, faites ceci en mémoire de moi, et il va donner sa vie dans quelques minutes, dans quelques heures, vous voyez. Eh bien, au moment où il fait ça, il change sa position vis-à-vis des apôtres, c'est-à-dire vis-à-vis de nous aussi, et il dit, vous n'êtes plus seulement mes serviteurs, vous n'êtes pas d'abord mes serviteurs, je vous appelle mes amis. D'accord? Alors, il faut réfléchir à ce que ça veut dire pour Jésus. C'est très impressionnant de penser ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus fait entrer les apôtres dans son intimité. Il leur dit ce que je... Maintenant, vous savez ce que je vais faire. Hein, voyez, ce que le Père m'a appris, je vous l'apprends. En effet, les apôtres à ce moment-là vont être les dépositaires du secret de l'amour de Jésus, voyez, qui va aller jusqu'au bout dans un petit moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, le Christ franchit un pas dans la relation aux apôtres. La relation, quand on regarde la vie de Jésus avec les apôtres, on s'aperçoit que la relation a été progressive. Elle a eu des étapes. Le Christ a formé les apôtres pendant 3 ans. Et là, on arrive au bout où le Seigneur franchit la dernière étape. Il les appelle mes amis. Oui. C'est-à-dire qu'il les introduit dans son intimité. Alors, c'est très impressionnant de penser ça. Parce que l'amitié suppose l'intimité, une certaine intimité. Il n'y a pas d'amitié quand il n'y a pas d'intimité. Si tu ne sais rien de moi, tu n'es pas mon ami, non? Si on est opaque, c'est pas de l'amitié. Ça s'appelle autrement, non? Dans les relations d'affaires, on n'a pas besoin nécessairement de livrer le fond de son cœur quand vous achetez une voiture. Hein. C'est pas de l'amitié, non? Tandis que si je veux que tu sois mon ami, alors il faut que je te livre quelque chose de moi. Quelque chose de l'ordre du profond. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte d'être atteint par toi. Dans l'amitié, il y a une atteinte réciproque. Il y a un dévoilement réciproque. Non? Donc, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que le Seigneur leur dit, je vais vous dévoiler, là, en célébrant la scène et en mourant pour vous. Je vais vous dévoiler le fond de mon cœur. Le fond de mon cœur, c'est que vous êtes mes amis et que je vais mourir pour vous. Et en même temps, ça suppose aussi que le Christ accepte le fond du cœur des apôtres. Parce que l'amitié, ça va dans les deux sens, non? Si l'amitié n'est pas réciproque, elle n'existe pas. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le Christ dit aux apôtres, ton amitié m'importe. Je ne te donne pas seulement mon amitié, j'ai besoin de la tienne. D'accord? L'amitié, c'est un besoin réciproque. Je t'aime et je veux être aimé par toi. D'accord? Tu comptes pour moi et je veux compter pour toi. Et l'autre conséquence de tout ça, qui est très frappante, c'est que dans l'amitié, il y a une certaine égalité. On n'est pas en amitié avec les hauts responsables dont on est les exécutants, à moins qu'ils nous ouvrent leur cœur. Vous voyez ce que je veux dire? L'amitié n'est pas liée, le mot inégalité est contraire au mot amitié. L'amitié se traduit d'une certaine façon sur un même plan. Donc, ça veut dire que Jésus se met à la portée des apôtres. Il se met à égalité avec les apôtres. On a un autre moment dans l'évangile où ça se fait de façon bouleversante. C'est quand il dit à Saint-Pierre, 3 fois, m'aimes-tu. On va pas expliquer ça. Mais le Christ, à ce moment-là, se met à égalité avec Pierre. Eh bien, là, au moment de la scène, le Christ se met à égalité avec les apôtres, sur le même plan qu'eux. Il leur dit, je suis votre maître et vous êtes mes serviteurs, ok? Eh bien, maintenant, je descends en quelque sorte, et vous savez qu'il lave les pieds aussi des apôtres ce soir-là. Donc, je descends en quelque sorte de ma supériorité, je me mets sur le même plan que vous, c'est incroyable, et je vous demande d'accepter d'être mes amis. Il y en a un qui va pas accepter, c'est Judas. Ouais. Les autres vont accepter. Il y en a un qui va l'accepter de façon très émouvante, c'est Saint Jean. Oui, qui va se coller contre le cœur de Jésus. Ça va? Bon. Donc, voyez, vous comprenez le mouvement de Jésus. C'est très impressionnant de penser ça. Il s'approche des apôtres autant qu'un être humain est capable de s'approcher de quelqu'un. Il va au maximum dans le rapprochement des cœurs. Oui. Je t'aime, tu es mon ami, je donne ma vie pour toi, Veux-tu être mon ami? Veux-tu donner ta vie pour moi? Veux-tu m'aimer? J'ai besoin de ton amour. Ce qui s'est passé ce soir-là à la scène a dû être bouleversant pour les apôtres. Absolument bouleversant. Oui. Que ce personnage regarde chacun des 12 apôtres en lui disant Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Barthélemy, Philippe, veux-tu être mon ami? Philippe, veux-tu être mon ami? Thomas, veux-tu être mon ami? Oui. Tu comptes pour moi, ton amitié compte pour moi, j'ai besoin de ton amitié. Thomas, veux-tu me donner ton amitié? Ça a dû être un moment incroyable, non? Bon. Alors, là-dessus, après ce moment qui a dû être un moment extrêmement émouvant, donc Jésus part avec les apôtres au mont des Oliviers. Et vous savez ce qui se passe, donc commence à ce moment-là la nuit de Gethsémani. Jésus s'écarte des apôtres, il va un petit peu plus loin, dans le jardin, et les lieux sont probablement restés à peu près les mêmes qu'au temps de Jésus, à peu de choses près. C'est très impressionnant quand on y est. Donc Jésus s'écarte, et à ce moment-là, il demande à Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui. Ils viennent avec lui. Pierre, Jacques et Jean sont les apôtres qui sont les plus proches de Jésus. Ce sont eux qui l'ont vu transfiguré. Vous voyez, ils sont dépositaires de ce qu'on appelle dans l'évangile de Saint-Marc le secret messianique. Ce sont les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, au milieu des amis. Parce que l'amitié, c'est très varié, l'amitié. Vous voyez, c'est très personnel. Je suis ami avec toi d'une façon, mais avec toi d'une autre. Vous voyez? Donc Jésus a avec les apôtres des amitiés de type différent. Il a une amitié particulièrement forte et intime avec Pierre, Jacques et Jean. Il part avec eux. Et alors, à ce moment-là, donc vous savez ce qui se passe à Gethsémani, Jésus entre à ce moment-là en agonie. Alors, je ne vais pas vous lire le passage peut-être de l'agonie, parce que ça serait peut-être un peu long. Si, attendez, peut-être quand même je vais le faire. Vous l'avez médité. Bon, là, c'est pas la peine. Ok. Alors, vous savez ce qui se passe. Donc, Jésus est saisi d'angoisse. D'accord. Son âme est triste à en mourir. Il est saisi d'angoisse. Il s'écarte un tout petit peu des trois apôtres et l'angoisse est tellement forte qu'il tombe à terre. Il ne peut plus tenir debout. Vous voyez? Il ne peut plus tenir debout. Il tombe à terre. Et l'angoisse est si forte qu'il sue une sueur de sang. Alors, vous savez qu'entre parenthèses, ça existe. De fait, dans des cas de grandes maladies et d'angoisse paroxystique, un être humain peut suer du sang. Dans la cause de Marthe Robin, il se trouve que Marthe Robin suait du sang dans la Passion quelquefois, et nous avons des linges qui ont été marqués par le visage de Marthe. C'est pas aussi précis que le Saint-Suaire, mais c'est quand même assez précis. Nous en avons fait analyser un au microscope électronique par le meilleur laboratoire français, sans dire en détail de quoi il s'agissait, et ils nous ont dit dans le linge, il y a du sang, et c'est du sang exsudé. C'est-à-dire, ce n'est pas du sang qui a coulé d'une plaie vive. Parce que quand le sang passe à travers les pores, sa composition est légèrement différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Marthe a vécu ça. C'est-à-dire qu'elle a en effet exsudé du sang. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus, à Gethsémani. Il est dans un tel état d'angoisse qu'il exsude du sang. Et il me dit Saint Jean, qui tombe à terre comme des gouttes. Oui. Donc, il est vraiment au dernier degré de la déréliction et de l'angoisse qu'un être humain peut connaître. La question maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi le Christ est-il dans cet état-là? La question suivante, c'est pourquoi a-t-il amené avec lui Pierre, Jacques et Jean? Alors, pourquoi est-il dans cet état? Dans le récit des tentations de Jésus, vous savez, les trois tentations au désert, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où la dernière phrase est la suivante, « Ayant épuisé toutes sortes, toutes les formes de tentations, le démon s'éloigna de lui jusqu'à l'heure favorable, ou à l'instant fixé, c'est la même traduction. » L'heure favorable, c'est Gethsémani. Le démon revient à Gethsémani. Et il va tenter Jésus. Sur quoi va-t-il le tenter? Il peut le tenter sur la manière effroyable dont il va mourir. Les tortures qu'il va avoir et sa mort très douloureuse. Parce qu'un être humain n'est pas du tout fait pour mourir comme ça. Et donc, en effet, l'humanité de Jésus peut se révolter contre ça. Mais c'est plus profond encore. Le démon va tenter Jésus sur l'inutilité de son sacrifice. C'est-à-dire qu'il va lui dire, tu vas mourir, tu vas donner ta vie pour tes amis, tu viens d'ailleurs d'appeler les apôtres tes amis, tu as amené avec toi tes trois amis plus proches, Pierre, Jacques et Jean, tu vas donner ta vie pour eux, eh bien, ils s'en fichent, ça ne va servir à rien. Tu vas donner ta vie pour sauver l'humanité s'en moque, elle va continuer comme avant. ça ne va servir exactement à rien. Et donc le diable va tenter de démobiliser Jésus. Il faut se rappeler que le nom de Jésus qui définit sa mission, comme toujours chez les Juifs, le nom définit la mission, c'est le Seigneur sauve. Jésus, c'est le sauveur. Il est là pour sauver. Et le démon va lui dire, eh bien, tu ne vas sauver personne. Tout le monde s'en moque. Et il va lui montrer l'humanité. Il va lui montrer toutes les horreurs qu'il y a dans l'humanité. Et comme vous le savez très bien, c'est pas ça qui manque. Mais il peut aller plus loin encore, le démon, dans l'affaire. Je vais vous expliquer après. Et donc, Jésus est en quelque sorte épouvant. Alors, le démon agit dans l'imagination de Jésus. Comme Jésus est un être humain, il a une sensibilité, donc il a une imagination. Et sur cette imagination, le démon peut avoir prise. Et donc, il va lui montrer dans son imagination tout l'échec du salut et de l'humanité. À tel point que Jésus est, en quelque sorte, complètement découragé. Et qu'il va dire au Père, « Père, tout est possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Vous voyez, Jésus ne perd absolument pas la foi. Mais il dit au Père, « Mais si tout ça ne sert à rien, alors trouve une autre voie. » Et donc, heureusement, le Christ, étant complètement uni au Père, lui dit, « Mais que ta volonté, Père, soit faite et non la mienne. » Alors, à ce moment-là, Jésus va avoir besoin de ses amis. Jésus va avoir besoin de l'amitié humaine. Si vous avez assisté des mourants, Jésus est en agonie comme un mourant, vous allez comprendre ce que je vais dire. Quand quelqu'un est en train de mourir, la personne n'a pas besoin de discours. C'est pas le moment de faire des discours. Il faut être à côté de la personne, il faut qu'elle sente la présence. Et pour la sentir, la meilleure solution, c'est encore de tenir la main, voyez, ou de caresser doucement les joues. Et de caresser le front un tout petit peu aussi. Et à ce moment-là, et de dire des mots qui sont des mots d'amour. Ces mots d'amour peuvent être d'ailleurs des prières, hein, voyez, comme le « Je vous salue ». Ou ça peut être des mots de tendresse. Hein. Et on va pas dire « Écoute, ne t'en fais pas, ça fait rien, tout va très bien, madame la marquise, ça va passer ». La personne qui meurt, c'est très bien qu'elle meurt. Mais elle a besoin d'amitié, elle a besoin d'une présence douce. À ce moment-là, à Gethsémani, le Christ avait besoin de l'amitié de ses amis. Il avait besoin de Pierre, de Jacques et de Jean. C'est pour ça qu'il les a amenés. Voyez, ils sont tellement terrorisés par ce qui se passe, c'est tellement au-delà de leur capacité, qu'ils n'ont qu'une solution, ils dorment. Voyez, ils s'enfuient dans le sommeil. Ils sont écrasés par la tristesse, ils dorment. Et le Christ a besoin d'eux. Il revient les voir trois fois. Il leur dit, mais vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Oui, on va rester avec toi. Ploum, il redorment. Ouais. Le Christ a agonisé seul. Seul. Et c'est tellement puissant que le Père a dû lui envoyer un ange. Ce que les hommes n'ont pas fait, l'ange l'a fait. Voyez. Et l'ange n'a pas été envoyé pour accabler Jésus. Il a été envoyé pour consoler Jésus. Jésus a eu besoin de la consolation. La consolation, c'est un réconfort dans les périodes difficiles. Si vous avez passé des moments difficiles, on en a tous dans la vie, des moments difficiles. On sait bien qu'à certains moments, on a besoin d'être consolé, voyez, conforté. On dit d'ailleurs de l'Esprit Saint qu'il est le consolateur. C'est très très fort quand on y pense. L'Esprit Saint consolateur. Eh bien, Jésus a eu besoin d'être conforté, d'être réconforté. Vous voyez, conforté, réconforté, les deux mots sont voisins. Et il a fallu que le Père lui envoie un ange pour ça, parce que les hommes ne l'ont pas fait. Vous voyez? Alors, on peut aller encore un peu plus loin. Le pape Pie XI, excusez-moi, le pape Pie XI a fait une encyclique qui est très peu lue, qui s'appelle Miserentissimus. Le vocabulaire date, ça fait aucun doute, la théologie date aussi, mais il y a à l'intérieur de l'encyclique des éléments très forts. Et en particulier, le pape dit ceci, reprenant toute une tradition issue de Paray le Monial. Le pape dit, quand Jésus agonise à Gethsémani, il est parfaitement homme, on sent très bien cette humanité de Jésus dans l'attaque qu'il subit, mais il est Dieu. Or, le Christ a un rapport avec chaque homme, vous et moi. Le pape Jean-Paul II disait très justement, le Christ est uni à tout homme. Le Christ, par exemple, le Christ nous regarde, là, Jésus nous regarde dans cette salle. Jésus n'est pas uni à la salle. Est-ce que vous comprenez? Il s'unit, il regarde chacune des personnes de la salle. D'accord? Bon. Et ça veut dire que par conséquent, à Gethsémani, nous sommes tous présents. C'est-à-dire que le Christ, quand le diable attaque, le diable montre les trahisons de chacun de nous, en commençant par les miennes, qui sont pas petites. Ouais. Et donc, est-ce que vous comprenez ça? Et le diable dit, tu vas mourir pour Paul, tu vas mourir pour Bernard, etc. Je vais te montrer des choses. Et à ce moment-là, le Christ subit en quelque sorte le poids de nos péchés et de nos trahisons. Vous voyez? Par contre, quand l'ange apparaît à Jésus, l'ange va faire l'inverse. Comment va-t-il consoler Jésus? Il va écarter les ténèbres du mensonge. Le diable, c'est le maître du mensonge et c'est le champion d'accusation. On l'appelle d'ailleurs l'accusateur. L'accusateur de nos frères est rejeté. C'est à ce moment-là, en particulier, que l'accusateur de nos frères est dévoilé et rejeté. L'ange va faire la lumière. Les anges sont toujours lumiers, liés à la lumière et à la vérité. Et l'ange va montrer à ce moment-là, chacun de nous, à Jésus, dans la beauté de nos cœurs et notre désir de l'aimer et d'être ses amis. Ça va? Ce qui veut dire que par conséquent, par nos péchés, nous accablons, nous sommes tous présents à Gethsémani. Le pape Pion l'a très bien dit. Mais par nos péchés, nous accablons Jésus. Mais par notre amour, nous consolons Jésus. Vous voyez, nous sommes en quelque sorte présents dans la consolation de l'ange. Et donc à ce moment-là, Jésus, conforté, vous voyez, conforté, réconforté, va se redresser. Il va aller trouver les apôtres. Il va leur dire maintenant, vous pouvez dormir. Vous voyez, c'est passé. Mais en fait, en réalité, donc le Christ va partir vers sa passion glorieuse parce qu'il sait que sa mort va être utile. Alors, en fait, aussitôt après, il va être arrêté, vous savez, il va rentrer donc dans la passion, mais il rentre dans la passion en sachant que cette passion est utile parce que nous sommes présents dans la passion de Jésus. Vous voyez, parce que le Seigneur sait que nous l'aimons. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est l'heure sainte, vous voyez. À l'heure sainte, nous sommes proches de Jésus. Et quand nous faisons l'heure sainte, eh bien, nous sommes à côté de Jésus, nous confortons Jésus. À la fois, nous entrons dans ses souffrances, ouais, nous sentons son abandon, nous voyons l'horreur du monde que porte Jésus, mais en même temps, nous consolons Jésus par notre présence. On est à côté de lui. C'est comme si on était autour de lui, vous voyez, et comme si on était autour de lui, là, tous ensemble, invisibles. Et en lui disant, mais Jésus, tu vas mourir pour nous, merci. Tu vas nous sauver, merci. Nous sommes avec toi, nous voulons te suivre, nous voulons t'aimer. D'accord? C'est très impressionnant quand on y pense. Parce qu'on peut pas être à l'écart, on peut pas être éloigné de choses comme ça. Alors, maintenant qu'on a compris ça, donc il y a un lien entre le message de Paray-le-Monial et Gethsémani. Et ce lien se fait par l'amitié. Par l'amitié. C'est-à-dire que le Christ a besoin de ses amis. Ce qui explique que dans la spiritualité du Sacré-Cœur, il y a toute une part de consolation du Christ. Comment consoler le cœur de Jésus? En étant ses amis, puisque c'est exactement ça qu'il demande. Vous voyez? Ce que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas fait, ils l'ont fait après. Et beaucoup mieux que nous ne le ferons. Mais, voyez, en étant là, dans l'invisible, nous sommes les amis de Jésus et nous consolons le cœur de Jésus. Donc notre rôle, c'est d'être là. Alors, on peut pas passer sa vie à faire l'heure sainte, c'est évident. Par contre, il y a une manière très simple de consoler le cœur de Jésus et donc de réparer en quelque sorte le péché du monde en union avec Jésus, c'est tout simplement l'adoration. Parce que dans les tabernacles, Jésus est présent. Nos villes et nos campagnes sont remplies d'églises. Jésus y est. Qui est devant Jésus? Alors, je vous dis pas qu'il faut passer notre vie à faire les églises les unes derrière les autres, hein. Mais quand on passe dans les villes et quand on voit les clochers, on peut du moins avoir un petit coup au cœur en pensant à Jésus. Ça coûte rien. Et prendre un peu de temps pour adorer Jésus, aller devant Jésus et lui dire, mais tu es là, voilà, j'ai travaillé aujourd'hui, je viens te parler de ma journée, je viens te dire que je suis ton ami, je te parle comme un ami parle à un ami. D'accord? Je suppose que vous devez avoir les uns les autres des amis qui vous téléphonent quelquefois. Quand vos amis vous téléphonent, qu'est-ce qui se passe? Vous leur racontez votre journée, votre vie, et eux aussi vous racontent la leur, non? Par exemple, ces jours-ci, on parle des inondations, ouais. Ça fait partie du vocabulaire de l'amitié. Bon, c'est la vie courante. Eh bien, quand vous allez voir Jésus, c'est ça qui se passe, vous voyez. Il y a une espèce d'échange d'amitié, d'échange de vie. Jésus est là, il vous regarde. Il dit, mais je suis ravi que tu sois là. Alors, comment ça s'est passé ta journée? Et puis il y a d'autres manières encore de prier le Seigneur. Mais ce qu'il faut simplement comprendre, vous voyez, c'est cette présence à Jésus. Alors, ça a une autre conséquence. Donc, vous voyez, c'est assez simple en réalité. Dans le message de Paré, il y a cet appel de Jésus qui veut être aimé des hommes. Vous vous rappelez, vous voyez, le message de Jésus de Paré est lié à ce qu'on appelle la redamatio, c'est-à-dire le retour d'amour. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Qui n'a, voyez, vous vous rappelez ça, n'est-ce pas, hein, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer, ou se consumer, c'est le même mot au XVIIe siècle, pour leur témoigner son amour. Le Seigneur paraît, c'est d'abord une déclaration d'amour. Dans la ligne de l'évangile de Saint Jean, et ce n'est pas un hasard si la première grande apparition a lieu le 27 décembre 1673, le jour de la Saint-Jean l'évangéliste. D'accord ? Donc c'est une déclaration d'amour. Et d'ailleurs, ça commence par un geste d'amour ou d'amitié, quand Jésus prend Marguerite Marie contre lui, et dit-elle, il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine. C'est fort. Oui. Comme geste d'amitié, on peut pas aller plus loin. Donc, ça commence par un acte d'amitié, tout humain, vous voyez, très beau, très, très pur, très beau. Et, vous voyez, et donc, il y a un appel à l'amour, apparaît le monial. Ensuite, il y a une plainte. Le Christ dit que de la plupart des hommes, il ne reçoit que des ingratitudes et des irrévérences. Puis il se retourne vers Marguerite Marie, et il lui dit, mais toi du moins, veux-tu me faire ce plaisir d'eux? Et ce qui est très important, c'est le mais toi du moins. Mais toi du moins, veux-tu? Parce que cette phrase-là, le Seigneur l'a dit à chacun de nous. Le Seigneur dit à chacun de nous, de la plupart des hommes, je ne reçois que des ingratitudes et des irrévérences. Mais toi du moins, Paul, Lucette, Albert, Amandine, mais toi du moins. Veux-tu me faire ce plaisir d'être mon ami, d'accepter l'amitié? Alors, la conséquence pour nous, et pour le Christ, qui est une conséquence qui est très importante, c'est que si nous acceptons l'amitié de Jésus, alors nous comptons pour lui, et nous comprenons que nous comptons pour lui. Autrement dit, je suis de mauvaise humeur le soir, ça peut vous arriver, d'autres c'est le matin, bon. Mais je vais quand même prier devant Jésus. Si je peux pas aller devant le Saint-Sacrement, là où je suis, je prends un temps de prière. Mon état compte pour Jésus. Oui, Jésus m'accueille et me dit, mais t'es de mauvaise humeur ce soir, Paul. Et oui, Seigneur, j'ai eu une journée difficile. Viens que je te console. Et en même temps, nous consolons aussi Jésus par notre amitié, voyez. Si j'aime Jésus, si je lui dis, Jésus, j'ai fait des efforts aujourd'hui, j'ai essayé d'être bon, j'ai essayé de rendre service, j'ai prié. Eh bien, nous consolons le cœur de Jésus. Tout ce que nous vivons, si nous le confions à Jésus, toute notre vie peut consoler le cœur de Jésus. Nous pouvons être une consolation pour Jésus. Quand on y pense, c'est fou. Non ? Que nous puissions, nous, consoler Dieu, mais c'est fou. Ça ne peut se faire que parce qu'il est devenu homme. Vous voyez, l'incarnation de Jésus, l'humanité de Jésus, a mis Dieu à notre portée. C'est incroyable. Dieu est devenu l'un de nous. Nous pouvons avoir des relations avec lui comme nous avons des relations les uns avec les autres, hein, d'une certaine façon. Donc nous comptons pour Dieu, nous touchons Dieu. Nous sommes vraiment les amis de Dieu. C'est fou, voyez. Et donc il y a ça dans le message de Paré. Il y a cet appel à l'amitié, vous voyez. Il y a ce retour d'amour. Quand le Christ dit qu'il a besoin, qu'il a une soif ardente d'être aimé des hommes, hein, eh bien, ça prend la forme de l'amitié. Ça prend la forme de cette amitié qu'il déclare aux apôtres le soir de la scène, voyez, qu'il n'a pas expérimenté dans l'agonie, mais qu'il veut expérimenter à travers nous. C'est fort. Et donc, c'est la fameuse phrase, j'ai soif. J'ai soif d'amour. Il y a d'ailleurs un chant du renouveau charismatique qui s'appelle j'ai soif d'amour, qui est un beau chant, qu'on chante plus maintenant ou pas souvent, mais qui est beau. Voyez. Vous savez que Mère Teresa, qui est une personne qui a énormément aimé le cœur de Jésus. Vous savez que Mère Teresa a eu sa vocation dans ce qu'on appelle la journée de l'illumination, c'est-à-dire dans un train. Elle était religieuse, d'accord, dans une congrégation qui s'appelait la congrégation des Sœurs de Lorette, qui enseignait aux Indes des filles de bonne famille. On formait l'élite de la société féminine indienne. Et elle réussissait très, très, très bien comme éducatrice. Puis un jour, elle a fait un voyage en train, en allant à Darjeeling, et elle s'est mise volontairement dans un wagon de troisième classe. au milieu donc de la saleté, du bruit, de la sueur, etc. Et dans ce wagon, elle a eu une illumination. Et le Seigneur lui a demandé de s'occuper des plus pauvres parmi les hindous, les indiens. D'accord? Mais ce qu'on oublie, alors ça c'est très connu, mais ce qu'on oublie en général, c'est que dans cette journée de l'illumination, le mot qu'il a traversé, c'est « j'ai soif ». Et Mère Thérèse disait que le mot le plus important de toute l'écriture sainte, c'était « j'ai soif ». J'ai soif. Quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la spiritualité de Mère Thérèse. J'ai soif. C'est-à-dire que le Christ a besoin d'être aimé. Il a soif d'amour. Et cet amour, on va le lui donner, voyez, et le consoler, donc, par tous les actes que nous faisons. Mais c'est encore une dernière conséquence. Et elle est très importante à comprendre. C'est que si nous sommes les amis de Jésus, voyez, si nous nous approchons du cœur aimant de Jésus, en lui disant « Jésus, je veux t'aimer », alors il faut nous aimer les uns les autres. Parce que si nous ne nous aimons pas les uns les autres, c'est du flan. Non? C'est trop facile de dire à Jésus qu'on ne voit pas, « Jésus, je t'aime de tout mon cœur », mais alors les êtres humains qui sont sur la terre, exit. Ouais. Or, en réalité, comme Jésus le dit très bien aussi dans l'évangile de Jean, je vous lis pas les passages, et ensuite après dans les épîtres de Paul, tiens, si vous voulez lire des choses sur l'amitié, et sur les relations que nous devons avoir les uns avec les autres, lisez Saint Paul. Saint Paul, c'est un remarquable docteur des relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Eh bien, en réalité, voyez, cet amour d'amitié, cette affection que nous devons avoir pour Jésus, nous devons l'avoir pour les autres. Le second commandement est la mesure du premier. Si nous vivons le premier commandement en aimant Jésus, alors nous devons vivre le deuxième commandement, qui est l'amour des autres. Comment être amis les uns des autres? Sans se dévorer, sans s'envahir, sans se peser les uns sur les autres, voyez, sans peser les uns sur les autres. Mais en même temps, il n'y a pas d'amour de Jésus s'il n'y a pas d'amour du prochain. D'accord? Et ça, il faut vraiment y réfléchir parce que c'est très important. Vous savez que des premiers chrétiens, on disait, voyez comme ils s'aiment. C'est ça qui a frappé les païens. Voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. Voilà. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'entrer dans cette affection pour le cœur de Jésus, cette amitié pour Jésus, hein, que le Seigneur nous donne la grâce aussi d'entrer dans cette amitié les uns pour les autres, qui suppose beaucoup de renoncement, beaucoup d'humilité, beaucoup de pardon, beaucoup. Et en même temps, c'est tellement beau, voyez, ça va tellement plus loin. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, hein, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous entre vraiment d'être la grâce des amis du cœur de Jésus, et des amis les uns des autres. Amen.